Nous allons ouvrir la parole de Dieu. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Évangile de Jean, chapitre 17. Jean, chapitre 17, verset 1er. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés au milieu du monde, Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi, Père, est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture fût accomplie. Et maintenant je vais à toi et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné, soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Amen. Ben, je m'arrête là. Je pourrais, après tout. Cette prière, elle est magnifique. Non pas parce que c'est Jésus qui l'a exprimée seulement, mais elle est magnifique par son contenu. Et c'est justement ça qui doit nous intéresser. Elle vient de Jésus, mais son contenu est vrai. Car Jésus lui-même est vrai. Cette prière, Jésus va la faire peu de temps avant d'être crucifié sur la croix. Et il va prier pour lui-même, il va prier pour ses disciples, et il va prier pour tous ceux qui croiront en lui. Et Jésus va s'adresser à son Père céleste avec qui, on va y revenir, il ne fait qu'un. Jésus est profondément uni à son Père. Il se présente devant son Père céleste, notre Père céleste. Et donc il va ainsi prier effectivement pour ses disciples, pour tous ceux qui croiront, qui croient en lui, afin que tout au long de leur pèlerinage sur la terre, ils puissent être gardés, protégés, qu'ils puissent être toujours à part pour Dieu. Tous ceux qui ont cru, et nous sommes beaucoup dans ce monde, à croire en Jésus, à être nés de nouveau, à être passés de la mort à la vie. Donc nous avons été, beaucoup ont été, et le sont encore aujourd'hui, engendrés par Dieu. La Bible dit être né de Dieu, non pas de la chair, du sang, de la volonté de l'homme, non, non. Non pas dû à un héritage humain, non, mais de Dieu. Être né de Dieu, né d'en haut. Et il y a des milliers, des millions de croyants sur la terre qui sont ainsi profondément engendrés par Dieu. Donc on connaît ainsi, quand c'est le cas, quand nous sommes nés de Dieu, on connaît celui qui nous a amenés dans cette possibilité, cette position spirituelle, à naître de Dieu, naître de nouveau, pour être entre ses mains, entouré de lui, rempli de son esprit. C'est donc connaître Jésus comme le Fils de Dieu que la parole de Dieu nous révèle. Et dans cette prière, Jésus va, par 10 fois, il va avoir cette expression « Père, j'ai ». Et Jésus a raison. Parce qu'il va proclamer ainsi la réalité de la plénitude de tout ce qu'il a accompli, de tout ce qu'il va parfaitement accomplir à la croix. Les deux premières fois où l'on trouve cette expression « j'ai » ou « je », elle se trouve au verset 4, Jésus dit « Père, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Et puis tout au long des textes qui suivent, on retrouve par 8 fois cette expression dans la bouche de Jésus. Donc Jésus va insister sur la perfection de son œuvre. Tout ce que Jésus fait est parfait. Jésus a accompli parfaitement toutes choses pour notre salut et pour que nous aussi, nous puissions, comme dit Paul, si nous pouvons y parvenir, jour après jour, dans notre marche spirituelle, à cette perfection spirituelle. Paul dira, je ne dis pas que j'y suis arrivé, mais je tends. C'est un but. Je veux y arriver, dit-il à l'église des Philippiens. Je veux y arriver. Alors je vais considérer tout ce qui faisait ma gloire auparavant comme étant de la boue, et je vais ainsi pouvoir considérer autrement les choses, c'est-à-dire la gloire de Dieu qui doit remplir ma vie et remplir l'Église. Jésus lui-même va demander au Père d'être glorifié. En définitive, Jésus va demander au Père d'être glorifié parce que lui-même, Jésus, a glorifié le Père dans son ministère. Dans la traduction du Semeur, la Bible du Semeur, par rapport à ce verset 4, concernant ce verset 4, il est écrit, et c'est beaucoup plus clair, c'est Jésus toujours qui parle, j'ai fait connaître ta gloire, donc Père, sur la terre, en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée. Et la traduction du Semeur est beaucoup plus clair, beaucoup plus explicite. J'ai fait connaître ta gloire, Père, sur la terre, en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée. Et la volonté du Seigneur dans cette prière, priant pour ceux qui lui appartiennent, priant donc pour ceux qui vont composer son Église, c'est qu'ils puissent manifester la gloire de Dieu par leurs paroles, leurs services, leurs prières. Et tellement d'autres choses. Et j'ai uni cette parole de Jésus, là, dans ce verset 4, à un autre passage biblique qui va tout simplement amplifier cette vérité. C'est dans l'évangile de Jean, chapitre 13, verset 31, et je lis ceci, « Quand il fut parti, c'est Judas, il y a le repas, Judas s'en va, pourquoi faire ?» Pour vendre Jésus, pour accomplir son forfait. Et dans la prière que nous avons lue de Jésus, Jésus dit, je n'en ai perdu aucun, si ce n'est le fils de la perdition, afin que s'accomplissent les Écritures. Alors, je ne voudrais pas revenir un petit peu sur, ou du moins, revenir sur ce que j'apporte le vendredi soir par rapport à ce fait que Jésus est pleinement Dieu, pleinement homme, et nous sommes en train de voir les attributs divins qui le concernent. Et nous avons déjà vu son omnipotence, et nous n'avons pas terminé vendredi, donc tout ce qui concerne son omniprésence. Mais nous verrons aussi son omniscience. Jésus sait. Mais en définitive, tout ce qui doit arriver selon le plan de Dieu, la volonté de Dieu, et même encore aujourd'hui, tout cela, que ce soit positif ou que ce soit négatif, tout va servir pour la gloire de Dieu, l'œuvre de Dieu, pour que toute chose se mette en place selon ses plans. Alléluia. Et je le disais vendredi, pour ceux qui étaient là, il m'est arrivé plusieurs fois d'entendre des frères et sœurs dire, pasteur, « on a décidé de ne plus marcher avec Jésus. Oh là là, c'est grave, hein ? Et on essaye à comprendre pourquoi, les aider quand ils veulent bien être aidés, puis parfois on n'y arrive pas. On ne peut pas tout expliquer, tout comprendre. Mais je leur ai dit, vous savez, même si vous partez, l'œuvre de Dieu continuera. Elle se développera. Et quand Judas est parti, Jésus va dire, maintenant, la gloire du Fils de l'homme éclate et Dieu va être glorifié en lui. Puisque Dieu va être glorifié en lui, Dieu, à son tour, va glorifier le Fils de l'homme, Jésus, en lui-même et il le fera bientôt. Et ce texte nous parle de la croix. La croix. Où Jésus, au lieu d'avoir une couronne d'or sur la tête, va recevoir des hommes une couronne d'épines. Au lieu de recevoir les honneurs qui lui sont dus, il va être flagellé, battu, maltraité, opprimé, rejeté, bafoué. Il va être l'objet de la haine des hommes à cause du péché qu'il y a dans le cœur de l'homme. Mais quand on regarde un tel tableau, relaté par les Écritures et par l'Évangile, on a envie de dire, mais où est la gloire de Jésus ? Dieu n'a pas la même logique que nous. La croix n'est pas le rabaissement du Fils de Dieu. La croix est la mort et la résurrection de Jésus. C'est son élévation, c'est la glorification du Fils de Dieu. Et je prends conscience que quand Jésus est en train de faire monter vers son Père une telle prière, il est en train de nous dire à nous qui sommes nés de lui, nés de Dieu, nés d'en haut, nés spirituellement, que malgré les luttes, les combats, les oppositions, les oppressions, les railleries, les moqueries, les difficultés, bref, point de suspension, ne sont pas appelés à nous rabaisser, mais sont appelés à vivre ce que le Maître a vécu avant nous et à être, au moment voulu de Dieu, élevé. J'ai pas dit l'orgueil, élevé spirituellement. Pourquoi ? Parce que, au départ, une telle démarche est une démarche qui nous amène dans l'humilité. Et l'humilité, elle précède toujours la gloire. Aucun homme ne pourrait prononcer de telles paroles que celles que Jésus a prononcées dans sa prière. Je dirais même que l'œuvre des chrétiens les plus engagés, les plus consacrés, je vais dire même les plus éminents, vont rester des œuvres fragmentaires, inachevées, imparfaites. Vous tous, et moi avec, tout ce que nous faisons reste imparfait. Il n'y en a pas un qui peut dire dans cette église ou dans d'autres églises, ce que je fais est mieux ce que mon frère ou ma sœur a fait. Ce que j'ai fait, je peux le faire parce que mon frère et ma sœur est avec moi. Parce que l'église est un tout, l'église est un corps, et Jésus, et je vais y revenir, a prié pour l'unité des siens, parce que tout ce que Jésus a fait pour qu'il soit glorifié, il l'a fait, et il a été glorifié, parce qu'il a toujours été uni à son Père. Alléluia. Et ça, c'est un exemple à suivre. On pense que glorifier le Père, c'est connaître parfaitement la Bible. Non, c'est faux. Complètement faux. Parce qu'il y a des gens inconvertis dans le monde qui connaissent mieux la Bible que vous et que moi. Des philosophes, des intellectuels, et j'en passe. Non. On pense que on va glorifier le Père parce que on se tient pendant des heures et pendant des nuits dans la prière. C'est faux. Non. C'est important, pourquoi pas. Si quelqu'un veut prier des nuits entières, libre à lui. Mais c'est pas ça. Ce qui fait, je pourrais rajouter bien autre chose, ce qui fait que l'on va glorifier le Père, qu'on va voir sa gloire se manifester au milieu de nous, en nous, c'est le fait que notre position va être une position d'unité avec le Père, avec le Fils, avec le Saint-Esprit, mais avec tous les croyants, tous ceux qui aiment Jésus, ici à Groyer et dans le monde entier. Sans aucune distinction de race, sans aucune distinction sociale, sans aucune distinction intellectuelle, sans aucune distinction de profession, pareil, unis. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont unis. Et pourtant, doctrinalement parlant, le Père procède du Fils et procède du Père. Le Fils procède du Père. Le Père est au-dessus, mais sa forme Dieu, l'unique et le véritable Dieu, mais malgré tout, ils sont unis. Et dans l'unité de la Trinité, il y a le respect de ces trois personnes de la Trinité. Il y a un attachement profond l'un à l'autre. Et il n'y en a pas un qui dit « je vais passer au-dessus de l'autre ». Il y a le respect de cette position qui est la leur, et la position de l'un, ne peut pas exister sans la position de l'autre. C'est ça qui fait que Dieu est un et indivisible. Et c'est ça qui fait la force de l'Éternel. Tout ce qu'il a créé dans le ciel et la terre est créé de manière à profiter d'une chose par rapport à une autre pour que l'une existe avec l'autre. Et l'Église n'a pas été créée pour qu'elle soit fragmentée par des idées bizarres, charnelles, non spirituelles, mais elle a été créée par le Seigneur pour qu'elle soit habitée, je dirais modelée, par ce qui vient du Père, du Fils et du Saint-Esprit, donc du ciel. Alléluia, Père, glorifie-moi. Glorifie-moi. Commence sa prière ainsi, Jésus. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Alléluia. Tout ce que nous pourrions faire reste fragmenté et inachevé. Parce que quand on y réfléchit, en définitive, on se rend compte que s'approcher du Père, de Dieu, c'est une grâce. Parce que quand je m'approche de lui, je m'approche de celui qui sonde les cœurs et les reins, qui sonde mes voies, et il est à même de pouvoir voir si ce que je fais ou ce que je suis en train de faire va être dans la réalité de ses plans et donc va pouvoir s'achever correctement. Parce que si je vois les choses autrement, selon mes propres principes, alors je vais devenir insolent devant Dieu. Je vais manifester une présomption des plus insolentes parce que le Père dit, du moins pardon, Jésus, le Fils dit au Père, mais j'ai besoin de toi. Quand Jésus dit tout ce que j'ai fait, je le fais parce que je l'ai vu au Père, parce que le Père m'a donné de le faire. Jésus dit, sans lui, je ne peux pas. Jésus a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il avait besoin du Saint-Esprit. Et nous ? Nous avons besoin du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Nous avons besoin des uns et des autres. Dans le monde, on dit, on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Ça, c'est un adage du monde, une expression du monde. Mais ce n'est pas faux. On a besoin des autres. Et quand le Fils de Dieu, Jésus, parle ainsi dans cette prière, il n'y a pas d'orgueil. Le Père va lui donner d'accomplir certaines choses. Verset 2, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Et cette pensée qui ressort de ce verset 2, nous la retrouvons à 7 reprises dans ce chapitre, dans ce texte, du moins dans cette prière, où Jésus va parler des disciples dans ce cadre-là par rapport au salut, à la vie éternelle qui lui ont été donnés. Vous avez le verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Verset 9. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Remarquez, Jésus dit, Père, ils sont à toi. Verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon, on l'a lu tout à l'heure, le fils de la perdition, c'est-à-dire Judas, afin que l'écriture fût accomplie. Et puis vous avez le verset 24, Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, on y revient, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. En définitive, nous comprenons que nous appartenons à Jésus selon la volonté du Père. Nous avons été donnés à Jésus parce que le Père l'a voulu et il veut le Père, usant de patience, afin qu'il n'y en ait aucun qui périsse justement, mais qu'il soit sauvé en passant par la repentance, en s'humiliant sous la puissante main de Dieu, en croyant que Jésus est le Fils de Dieu, le Sauveur, celui qui a tout accompli pour le pardon des péchés à la croix du calvaire. Alors, à ce moment-là, il nous donne à Jésus. Amen. J'appartiens à Jésus. En définitive, je comprends ici que notre sauvegarde spirituelle, ici-bas, par rapport à l'éternité, parce qu'il faut que j'aille jusqu'au but, pour entrer dans le ciel, il faut que j'aille jusqu'au bout. Et notre sauvegarde, donc, dans ce sens-là spirituel, elle est dans l'amour inépuisable du Père, dans l'amour incommensurable du Père, dans l'amour inconditionnel du Père, dans l'amour éternel du Père, dans l'amour qui surpasse toute connaissance du Père. Amen. Et dans sa sainteté parfaite, Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité, ta vérité. Amen. En définitive, il y a là quelque part, sur le plan doctrinal et théologique, un jeu de mots spirituel. C'est Jésus qui dit, sanctifie-les, hein, sanctifie-les par ta vérité, alléluia, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Et Jésus est en train de dire, sanctifie-les par le fait que tu me les accordes, tu me les donnes, parce que je suis la vérité, je suis la parole qui a été faite chair. Donc, oui, avec moi, tu me les donnes, alors je peux les mettre à part pour toi, à part pour le ciel, à part pour ta gloire, à part par rapport à un monde qui, lui, se glorifie dans ses affaires à lui. Mais Dieu dit, le Père dit, le Fils dit, l'Esprit de Dieu l'appuie, je suis au Père pour être à lui totalement, complètement, profondément, alléluia, à part. À part que Dieu nous donne la possibilité par le Saint-Esprit d'achever notre sanctification en lui. Sa sainteté qui va nous conduire pas à pas dans le chemin où son Fils Jésus, notre cher Sauveur, son Fils bien-aimé, comme pleinement homme, l'a parfaitement glorifié tout en étant pleinement Dieu. Alléluia. C'est ainsi que demeurant mes bien-aimés sous sa garde, sous sa protection, sous son regard jour après jour, heure après heure, nous pourrons traverser ce monde, nous pourrons traverser la mentalité de ce monde, à l'abri de ses dangers, préservés de ses souillures, protégés et conduits par le Père Saint à qui le Seigneur nous a remis. Tu me les as donnés, mais ils y sont pour toi, Père. Amen. Je comprends que l'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, première chapitre 6, deuxième chapitre 5, l'apôtre Paul va insister, pas seulement là, bien sûr, en disant que nous ne nous appartenons plus, mais que nous sommes bien à lui. On lit ces deux passages. 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple, non plus du péché, de la calomnie, de la médisance, du mensonge, et j'en passe, ça c'est avant, mais le temple du Saint-Esprit. Et là, ça change tout. Ça change ma manière de penser, ça change ma manière de réfléchir, de réagir. C'est-à-dire que de suite, je vais me dire après tout, c'est vrai, je suis quand même le temple du Saint-Esprit, c'est pas rien. Et si je suis le temple du Saint-Esprit, donc je suis une habitation de Dieu. Et si je suis le temple du Saint-Esprit, une habitation de Dieu, eh bien, la maison du Seigneur, c'est nous. C'est moi. Le Saint-Esprit qui est en vous, il n'est pas dit dessus, hein, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Pourquoi ? Parce que vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu, on y revient. Comment ? On l'a dit tout à l'heure. Par notre position. Puisqu'il est écrit, dans votre corps, et si ça se passe à l'intérieur, ça va avoir un impact à l'extérieur. À l'extérieur. Je ne réagis plus pareil, je ne parle plus comme avant, je ne suis pas susceptible, je suis vrai. Avant, je ne l'étais pas, à cause du péché. Mais là, je suis devenu le temple du Saint-Esprit. Et 2 Corinthiens 5, 17, on connaît pour la plupart ce verset par cœur. Si quelqu'un, c'est n'importe qui, si quelqu'un est en Christ, en Jésus, il est une nouvelle créature, création. Les choses anciennes, hop, elles sont passées, au revoir. Non, pas au revoir. L'expression, c'est adieu. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Non, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas bu de café ce matin, c'est ma personnalité. Devenues nouvelles. Et en disant, si quelqu'un... Dieu nous montre que n'importe quelle personne peut devenir encore aujourd'hui bénéficiaire de la grâce de Dieu, source de salut en Jésus-Christ. C'est pourquoi ailleurs, il va suggérer que quiconque croira pour avoir la vie éternelle, recevra la vie éternelle. C'est quel passage ? Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu... Attendez, stop. J'aime bien, de temps en temps, les enfants. D'ici quelques mois, il y aura un culte avec les enfants, où je prêcherai aux enfants, mais en même temps, ça sera pour les adultes. Jean 3, 16. Non, mais je ne te demande pas de l'écrire. Est-ce que tu peux réciter Jean 3, 16 ? Alors, pour ceux qui écoutent sur le site, je m'adresse à un enfant.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui et ne périsse point. Mais qu'il ait la vie éternelle.
Alléluia. Pour ceux qui écoutent sur le site, il y a un enfant à côté qui est jaloux. Alors moi, je veux que tout le monde soit heureux. Tu le connais ? Un petit peu. Bon, alors je ne t'embête plus. Donc, gloire à Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde. Quiconque, c'est chacun. Et parvenir à être en Christ, c'est la chose la plus belle qui soit. La Bible ne dit pas, et je suis quand même, et vous l'êtes aussi, sérieux sur ce point-là, bien sûr. La Bible ne dit pas être dans le cadre d'une religion, avec une étiquette religieuse. On sait que ça n'apporte pas grand-chose, si ce n'est rien du tout. Mais être en Christ, c'est différent. Et être en Christ, c'est bien... Mais y demeurer, c'est mieux. Et parvenir à être en Christ et y demeurer, c'est le fruit d'une démarche de foi, de totale confiance, de repentance, changement de comportement et de mentalité, et de conversion, je me détourne de mon péché pour me tourner vers Dieu et afin d'être sauvé en Jésus-Christ. Et selon le contexte, bien sûr, il y a réconciliation, importance de connaître Christ, non pas selon la chair, ce qui ne serait, d'aucun avantage. Aller vers Jésus, c'est une démarche. Aller vers Jésus, c'est une démarche importante. Voyez-vous, l'Évangile nous parle à plusieurs reprises, merci Jésus, de toutes ces femmes, tous ces hommes qui ont fait une démarche vers Jésus pour venir à Jésus, pour être de ceux qui vont être donnés à Jésus et qui vont appartenir au Père. Alléluia ! Ils ont fait une démarche. Et je prends un exemple de l'Évangile, Marc. Chapitre 10, verset 50, quand il est question de Bartimée que Jésus appelle par l'intermédiaire de ses disciples, puisque Bartimée a insisté, Jésus, aie pitié de moi, fils de David, aie pitié de moi. Et l'aveugle, quand il est appelé par Jésus, que les disciples, allez, lève-toi, il t'appelle. Il va, cet aveugle Bartimée, il va jeter son manteau. Il va se lever tout doucement, tranquillement, sans trop se presser, on a tellement le temps. Non, pour lui, c'est pressé. Et d'appartenir à Jésus, de demeurer en Christ, d'être dans la gloire de Dieu, de bénéficier de tout ce qui en découle. Car la gloire de Dieu, ce n'est pas une pleine lumière. Jésus est la lumière du monde. Mais la gloire de Dieu, c'est ce que Dieu est, et c'est ce que Dieu fait, et c'est ce que Dieu a pour nous. Et mes frères et sœurs, lui, il l'a compris. Il veut être au contact de Jésus, fils de David, qui va avoir pitié, compassion de lui, afin de bénéficier de ce que Dieu est, de ce que Dieu fait, et de ce que Dieu peut lui apporter, alléluia, et d'être ainsi dans sa gloire. Il a d'abord entendu que Jésus passait, Jésus passe. Et sa prière démontre qu'il a vu en lui plus que Jésus de Nazareth, mais il a vu le Messie, il a vu le fils de David, il a vu le fils de Dieu. Il avait un désir intense, bien sûr, d'y voir, de recouvrer la vue. Et il est fondamental d'avoir la volonté et l'envie de parvenir à la lumière. En définitive, les yeux s'ouvrent quand ? Les yeux s'ouvrent quand l'homme accepte de confesser qui est Jésus. Et pour que cela puisse se faire, il y a déjà eu un miracle de révélation, puisque personne ne peut dire que Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, très solennellement, je pose cette question ce matin à l'église de Groyer, et à tous ceux qui nous écouteront sur le site. Deux questions. La première question est celle-ci. Vous y répondez pour vous-même, peut-être un peu plus tard, je ne sais. C'est entre vous et Dieu. Je m'y inclus. Avons-nous pris conscience que notre vie ne nous appartient plus ? Alors, cette première question, elle paraît banale. On pourrait dire, mais pourquoi il la pose ? Ça va de soi. Non, c'est pas banal. Avons-nous pris conscience que notre vie ne nous appartient plus ? La deuxième question. Si j'ai répondu oui à la première, donc il faut déjà y répondre, si j'ai répondu oui à cette première question, il y en a une deuxième qui se rajoute, et elle est celle-ci. Vivons-nous alors réellement pour Jésus qui est mort et ressuscité ? Car la prière de Jésus, c'est que nous soyons un, comme lui, il est un, avec le Père et bien sûr le Saint-Esprit. Je lisais cette petite histoire. C'est un moniteur qui donnait un enseignement, un animateur d'un groupe d'instruction biblique pour les enfants, qui donnait un enseignement biblique donc aux enfants qu'il avait devant lui. Et il leur avait lu l'histoire du riche et de Lazare. Luc chapitre 16. Il leur a lu cette histoire du riche et de Lazare. Luc 16. Le riche, rappelle-t-il à ses enfants, et en même temps, ça nous est rappelé aussi, le riche avait vécu dans l'opulence, nous dit la parole, sans s'occuper de son âme. Le pauvre Lazare, lui, il avait vécu près de Dieu. Le jour de leur mort, le pauvre Lazare s'en est allé dans le bonheur du ciel. Et le riche, qui ne s'est pas occupé de son âme, donc de Dieu, il est parti dans les tourments. Et le moniteur, après un bref commentaire, va faire participer les enfants et demande là à ses petits auditeurs, les enfants, lequel préféreriez-vous être, le riche ou bien Lazare? Question, ça. Et un petit garçon, là, lève la main. Vas-y, on t'écoute. Et il dit, bien écoutez, moi, ma réponse est celle-ci. Je voudrais, écoutez bien, et c'est une histoire vraie, hein, je voudrais être le riche pendant ma vie et Lazare quand je mourrai. Ah, disons, celui-ci, ça promet, hein. C'est les enfants. Alors, dans sa naïveté, l'enfant a exprimé la pensée en définitive de nombreuses personnes dans ce monde. Mangeons, dit Paul aux Corinthiens, buvons, amusons-nous sur la terre, allons-y, brûlons la chandelle par les deux bouts, parce que demain, nous mourrons. Alors c'est terminé, c'est fini, paf, paf, on enterre, paf, allez, paf. Oui. Jusqu'à ce que Dieu nous reçoive quand même dans le paradis. On ira tous au paradis. Chanter quelqu'un. Il n'a pas lu la Bible. Mais ce calcul n'est pas juste. Galates chapitre 6, verset 7, nous dit « On ne se moque pas de Dieu, car ce qu'un homme sème, il le moissonnera aussi. » Si on moissonne de la chair, on récoltera selon la chair. Si on moissonne selon l'esprit, on récoltera selon l'esprit de Dieu. Je lui appartiens ou pas? Je suis à lui ou pas? J'ai été donné à lui parce que j'ai accepté son œuvre, sa personne, sa grâce, et donc je suis au Père, ou je ne le suis pas. Ou pas encore. Paul lui-même pouvait rendre ce témoignage, Galates chapitre 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quelle unité, quelle osmose, quel alliage spirituel merveilleux. Si je vis maintenant dans la chair, dans ce corps, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Je pourrais même rajouter ce que Paul avait dit avant, parce que je ne m'appartiens plus à moi-même, parce que je suis le temple du Saint-Esprit qui vit en moi, qui habite en moi, parce que Jésus m'a aimé, parce que Jésus s'est livré lui-même pour moi. Moi et Jésus, on ne fait qu'un. Moi, Jésus, le Père et le Saint-Esprit, on ne fait qu'un. Moi, Jésus, le Père, le Fils et le Saint-Esprit et l'Église, on ne fait qu'un. Amen. Alléluia. Alors, je vais arriver à la fin, parce que je pourrais en parler pendant des heures. Ce n'est plus moi qui vis. Alors, je vais terminer sur ce mot « unité » très rapidement, parce que j'en ai plus ou moins déjà parlé. Et vous avez compris comme moi qu'il y a bien une chose que le Seigneur désire ardemment et profondément, c'est l'unité. C'est l'unité. C'est l'unité. Dans la vie de tous les siens, tant entre chrétiens et chrétiens avec Jésus, comme j'ai déjà dit. Et l'apôtre va exhorter ses contemporains à faire tous leurs efforts pour conserver cette unité spirituelle. Éphésiens chapitre 4, verset 3, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et il faut souligner que dans sa prière, Jésus fait allusion à 5 reprises à cette unité. Verset 11, verset 21, verset 22, verset 23. On l'a lu. La question est celle-ci. Mes frères et sœurs, est-ce possible, au 21e siècle, de vivre l'unité malgré la diversité et les différences? Oui ou non? Qui dit non? Vous avez le droit, hein? Mais je ne vous suivrai pas. Et d'autres non plus. Vous avez le droit. Mais moi, j'ai le droit de dire oui. Comme d'autres disent oui. Mais pour le comprendre, il faut vivre un autre mot. C'est le mot cohésion. Qu'est-ce que la cohésion? C'est la force qui unit les parties d'une matière. Et s'il y a de la cohésion, la matière est stable. C'est ce que je disais tout à l'heure. Avec mes propres mots. Là, j'ai pris la définition. En définitive, c'est le caractère d'un ensemble dont les parties sont solidement attachées les unes aux autres. Harmonie parfaite. Et la cohésion d'un groupe s'oppose à tout ce qui est confusion, tout ce qui est désagrégation, tout ce qui est dispersion, tout ce qui est dissolution, tout ce qui est division. L'unité de la foi, et ainsi tout le corps bien coordonné forme un solide assemblage, Éphésiens 4, par rapport au ministère don de Christ dans l'Église. Philippiens 2, Paul dit, mais rendez ma joie parfaite en ayant un même sentiment, un même amour, etc. Parler donc de cohésion dans l'Église, c'est donc évoquer son unité, son harmonie, dans sa mentalité, son état d'esprit, comme dans son fonctionnement, comme dans ses actions. Alléluia, personne ne vit à côté, c'est vivre. Si on vit en cohésion, on va vivre en cohérence. Et la cohérence, ça va beaucoup plus loin que la cohésion, c'est une liaison et les rapports entre des idées qui s'accordent entre elles et non pas qui se frottent entre elles. C'est une absence de contradiction, ce qui est cohérent est logique et ordonné, ça fonctionne bien, c'est structuré, ce qui ne l'est pas, c'est confus, ça fonctionne mal, c'est divisé, c'est cassé, c'est brisé, ça c'est l'œuvre du diable. L'œuvre de Dieu, c'est la cohésion, la cohérence, l'unité, comme le Père et le Fils et le Saint-Esprit sont unis. L'Église ne peut pas vivre dans ce monde en donnant un témoignage de salut, de grâce, de guérison, s'il n'y a pas cette vérité, cohésion, cohérence, unité. C'est impossible. Et non seulement les uns envers les autres, mais les autres, et dans les Églises, à l'égard des pasteurs, des serviteurs de Dieu, des évangélistes, de ceux qui ont reçu un ministère don. À ce moment-là, si c'est le contraire qui se passe, tout se casse, tout se brise, tout part dans tous les sens. Et là, c'est pas Dieu qui est glorifié. Pardonnez-moi, je veux le dire entre guillemets, c'est le diable. Alors il faut un bon état d'esprit, bien sûr. Et je termine en disant, mes frères et sœurs, quelqu'un a dit ceci, ça sera le mot de la fin. Se réunir est un début. Rester ensemble est un progrès, et travailler ensemble, c'est la réussite. Vous savez qui c'est qui a dit ça? C'est pas moi. Enfin, je l'ai dit, j'ai fait que le répéter. C'est Henry Ford, fondateur des usines automobiles Ford aux États-Unis. Et ce qu'il a dit là, il l'a mis en pratique. Et on sait ce que cela est devenu. Mais sur le plan spirituel, c'est ce qu'il faut vivre. Et je termine avec cette question, comme ça elle va rester dans votre cœur. Quelle image ou quel visage du christianisme je donne à ce monde en pleine décadence, en pleine déchéance spirituelle, mais aussi en pleine recherche d'un idéal et aussi dans certains domaines d'unité? Quelle est l'image, quel est le visage que je donne mon Église du christianisme dans ce 21e siècle? Ça commence par chacun individuellement pour vivre ensuite cette vérité ensemble. Nous voulons te bénir et te rendre grâce, Père. Nous avons évoqué tout ce qui concerne, Seigneur, ces points forts qui démontrent que nous t'appartenons mais qui démontre aussi qu'on ne peut pas t'appartenir si on n'est pas unis les uns aux autres. Nous avons vu que l'unité, pour toi, c'est très important. Et comme toi, tu es notre Seigneur et notre Dieu, notre Maître, nous ne voulons pas faire l'économie d'une telle vérité. Nous voulons la pratiquer, la vivre intensément. Seigneur, manifeste-toi au sein de nos églises en France, en Europe et dans le monde entier. En ce 21e siècle, car c'est par le biais de cette unité à laquelle s'unit l'amour que la véritable solidarité se met en place, et c'est à ceci que le monde croit que nous sommes tes enfants. Et je te prie pour qu'il en soit ainsi. Père, au nom de Jésus, et nous n'avons pas fini, Père, au nom de Jésus, de prier pour cela. Ça commence par nous et ça va au-delà de nous. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Merci Jésus. Merci pour le Saint-Esprit. Merci Père. Merci mon Dieu. Amen. Amen.